prions ensemble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous soutiens dans la tempête et que, effectivement, ta bienveillance est précieuse à nos yeux. Merci parce que tu veux du bien à ton peuple, tu veux du bien à chacun d'entre nous. Et ce matin encore, tu as une parole pour notre bien. Merci parce que ce n'est pas le cas de tous les hommes qui nous entourent, Seigneur. Nous vivons dans un monde où la méchanceté règne parfois. Merci parce que toi, tu nous veux du bien. Merci parce que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci parce que tu t'adresses à nous, tu nous parles, tu nous instruis. Et merci, Seigneur, parce que tu rassembles aussi tes enfants dans ta présence. Ce matin, Père, nous voulons demander que ton esprit nous visite, que ton esprit nous rencontre, que ton esprit nous parle et que, Seigneur, nous puissions passer des instants à l'écoute de ta voix, que nous puissions passer des instants à l'écoute de ta volonté. Seigneur, merci pour ce texte qui nous a été lu par notre frère Eric. Effectivement, nos discours ne sont pas des discours humains. Ce sont des discours de puissance qui doivent venir de toi, attachés à ta volonté. Seigneur, que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions recevoir ce qui vient de toi. Que tu fortifies chacun d'entre nous, que tu soutiennes ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, qui se battent dans leur combat. Et que, Seigneur, tu nous fasses du bien. Donne-nous, Seigneur, de sortir de ce lieu fortifié et encouragé par toi. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui nous aime et qui est mort pour nous. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez toujours bien, de toute façon. Vous avez de la chance de toujours aller bien. Surtout Yvan. Hein. Yvan, c'est l'homme du sourire, on l'appelle. Il est toujours de bonne humeur. Alors, du coup, sa femme est toujours de bonne humeur aussi. Voilà. Ce matin, nous allons partager un message dont le thème est le suivant. Sainteté, sainteté à l'Éternel. Et pour cela, nous allons lire dans Lévitique chapitre 19. On lit très rarement dans Lévitique. C'est un texte, ce sont des textes que nous avons parfois du mal à aborder parce qu'ils semblent tellement vieux, tellement inutiles, tellement déconnectés de notre réalité. Et on se dit, à la limite, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a été mettre ce genre de texte dans la Bible. Et pourtant, comme disait l'apôtre, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et donc nous allons lire Lévitique chapitre 19, et là nous allons lire deux portions, une première du verset 1 au verset 18, et une deuxième du verset 26 au verset 37. Voici ce qui est écrit. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, « Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Que chacun de vous respecte sa mère et son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel. Il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie à l'écart de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serment par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Et ainsi, tu révéleras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Verset 26. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne rechercherez pas les augures. Vous ne vous taillerez pas en rond le bord de votre chevelure. Vous ne vous raserez pas les coins de la barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur votre corps. Je suis l'Éternel. Ne déshonorez pas vos filles en faisant d'elles des prostituées. Le pays entier s'adonnerait à la prostitution et se remplirait d'immoralité. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits. Et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins. Ne les consultez pas. Vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu révéreras ton Dieu. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesures de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Je suis l'Éternel. Amen. C'est un texte très vieux, n'est-ce pas? C'est un texte vieux, vieillot, dur, rigide. On n'aime pas ce genre de texte. Parce que quelque part, quand on le lit, on a affaire à un Dieu pas sympa. Pas sympa, il donne des ordres, il annonce des sanctions, il parle de choses qui ne nous arrangent pas toujours, il faut le dire, de choses qui, quelque part, aujourd'hui, sont tout à fait normales et... On est mal à l'aise vis-à-vis de ce genre de texte parce que, quelque part, on n'a plus l'impression d'être en présence du Père aimant, bienveillant et proche de nous. On a plus l'impression d'être devant un juge qui lit un jugement ou qui lit une loi. Et pourtant, n'importe quelle personne qui lit ce texte-là ne peut pas nier que la plupart des choses qui sont dites nous concernent aujourd'hui. On ne parle pas de trucs complètement loufoques, éloignés de notre réalité. On parle de choses qui nous concernent, de choses de la vie de tous les jours, de notre vie, de ce que nous rencontrons au jour le jour. Et dans certaines Bibles, le thème ou le titre de cette portion-là, c'est « Vous serez saints ». Vous serez saints. Et notre thème ce matin, c'est « Sainteté, sainteté à l'Éternel ». Et effectivement, c'est un thème tout à fait essentiel parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu en faisant l'impasse sur sa sainteté. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans avoir égard pour sa sainteté. D'ailleurs, rappelez-vous, et je voudrais que cette parole reste accrochée à notre esprit ce matin, lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est la toute première chose qu'il faut dire en priant. Donc il n'a pas commencé par dire « Seigneur, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. » La première chose, la première phrase de cette fameuse prière qui a traversé l'histoire et qui aujourd'hui nous inspire lorsque nous prions, qui est notre modèle pour prier, que ton nom soit sanctifié. Ou alors, certains disent, notre Père qui es aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Alors, n'importe quelle personne qui a un cerveau avec deux neurones minimum, c'est-à-dire à peu près vous tous, sauf un ou deux, mais bon, peut se dire en quoi est-ce qu'il y a besoin de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Soit Dieu est saint, soit Dieu n'est pas saint. Vous comprenez? On n'est pas en train de parler de choses sur lesquelles concrètement nous avons un impact. Que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Soit Dieu est saint dans son ciel, ou soit il n'est pas saint. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Et très souvent, c'est comme ça que nous réfléchissons en disant quelque part, voilà, Dieu est sur son trône, il est saint, il est digne, il est tout ce qu'on veut. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, j'étais pas là et je suis au courant de rien d'ailleurs. Et pourtant, quand on lit le texte de Lévitique chapitre 19, on se rend compte qu'en réalité, la sainteté de Dieu, ça nous concerne, ça nous implique, ça s'adresse à nous en premier public. Lorsque Dieu parle à ses enfants, à son peuple, il leur dit « Vous serez saints car je suis saint ». En d'autres termes, le fait, la réalité de la sainteté de Dieu nous impacte immédiatement et nous impose, nous aussi, de vivre la sainteté. Et c'est vrai que parfois, on a tellement mal donné la conception de la sainteté aux gens que les gens ont dit, oui, mais ça va, sainteté, ça veut dire on ne peut pas rire, on peut rien faire. Quand on est saint, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, on peut aller nulle part, on peut juste rester là sur sa chaise, et voilà. Hein? Et les frères, bon, soit, fermé. Parenthèse fermée. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça a un impact sur nous, si bien que dans les réunions des jeunes, les gens ne viennent pas, parce que quand on parle de sainteté, on se dit, oui, mais ça va, on a compris ce qu'il va encore dire, on ne peut pas faire ça, on ne peut rien faire de toute façon. Et pourtant, comme nous l'avons chanté, la sainteté de Dieu, ou l'enseignement sur la sainteté, c'est pour notre bénéfice. Nous sommes au bénéfice de la sainteté de Dieu. Nous avons une implication là-dedans. Et ce que le texte veut dire, et ce que la prière signifie, c'est que la prière, le désir de tout enfant de Dieu, devrait être qu'au travers de nous, le nom de Dieu soit respecté. Que le nom de Dieu soit valorisé, que le nom de Dieu soit aimé, respecté, admiré. Ce que le texte dit, c'est que les nations qui entourent Israël, en regardant Israël, devraient pouvoir dire « Oui, l'Éternel est saint ». Et si nous l'appliquons à nous aujourd'hui, ça signifie que les gens qui nous entourent, ou le monde qui nous regarde, spirituel, matériel, devrait pouvoir dire en voyant un enfant de Dieu, oui, l'Éternel est saint. Nous devrions, ou nous portons sur nos fronts la présence de Dieu, de manière directe. Et cela, à la seconde où nous acceptons Jésus, nous sommes sanctifiés par son mérite, avant toute chose. Nous sommes au bénéfice de sa sanctification à lui. Il dira dans Jean 17, « Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient saints. » Donc, notre sanctification, à la base, ce n'est pas tellement qu'on soit cool, gentil ou meilleur que quelqu'un. C'est un effet tout à fait automatique. Mais la sainteté de Dieu a aussi un lien direct avec son action. Le plan éternel de Dieu est exprimé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, et notamment, pour exprimer ce qu'il veut, ce que Dieu veut, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, verset 8. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ma demeure sera parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. C'est de vivre au milieu de nous. C'est de s'installer au milieu de nous. Et il dira dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc le défi d'une église en réalité, ou le défi de nos vies, c'est d'être en capacité d'accueillir la présence de Dieu. D'être en capacité d'accueillir cette grâce qu'il y a en Dieu au milieu de nous. Puisque c'est ce qu'il veut, il veut demeurer, il veut s'asseoir. Et c'est de toute éternité que ça a été ainsi, c'est pour ça qu'on a créé des sanctuaires. Et que même jusqu'aujourd'hui, voilà, on dit, l'église du Nouveau Testament a commencé dans des maisons, mais c'est bizarre, tout le monde va vers des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on veut des bâtiments? Mais parce que justement, c'est une tradition qui a traversé toute l'histoire, c'est d'avoir des lieux différents, particuliers, autres, dans lesquels les gens s'attendent à voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut que dans ce lieu, son nom soit sanctifié. Dieu ne s'assied pas dans les endroits où son nom n'est pas sanctifié. Dieu ne s'assied pas dans les endroits où son nom n'est pas respecté. Alors comprenons-nous bien. Nous pouvons très bien, notre salut, il est acquis. Je suis sauvé, et puis on s'arrête là. Donc je peux très bien être sauvé, je peux très bien être en relation avec Dieu, je peux très bien être au bénéfice du salut, mais ne pas être dans les conditions qui vont permettre à Dieu de complètement s'installer dans ma vie, simplement parce que son nom ne serait pas respecté, parce que son nom ne serait pas valorisé. Dieu ne peut pas essayer d'être ce qu'il n'est pas. Il ne peut pas se présenter dans un endroit où il ne peut pas être ce qu'il est. Contrairement plutôt à nous. En tant qu'être humain, nous pouvons être hypocrites. Donc je peux être un banquier et me faire passer pour un ingénieur industriel. Je m'en fiche d'aller dans un endroit si les gens me prennent pour un ingénieur alors que je suis banquier, voilà. Tant pis, l'idée que les gens ont de moi est différente de ce que je suis vraiment, mais on s'en fiche. Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Dieu ne peut pas agir dans un endroit où on le prend pour un chien. Dieu ne peut pas agir dans un endroit où on le prend pour un copain. Dieu ne peut pas agir dans un endroit où on le prend pour une fourmi ou une hirondelle. Dieu n'agit que dans les endroits, dans les vies, dans les milieux dans lesquels il est respecté pour ce qu'il est. Un Dieu saint, un Dieu digne, un Dieu majestueux. Et il se trouve que cette sainteté de Dieu, en particulier, a ceci de spécial, c'est qu'il y a des choses dans ce monde, il y a tout un ensemble de choses qui sont directement liées à Dieu. En d'autres termes, ce sont des choses, sans qu'on ne fasse rien, sans qu'on ne pense rien, sans qu'on ne dise rien, ce sont des choses qui sont en lien direct, étroit et éternel avec Dieu. Je vais m'expliquer par la suite. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec ces choses-là vaut exactement comme relation directe avec Dieu. C'est un petit peu comme les mandats, par exemple. Quand on mandate quelqu'un pour faire quelque chose, eh ben, si je mandate quelqu'un pour aller à ma place quelque part, ben, non, je vais donner un autre exemple. Dans certains pays, pas en Belgique, parce qu'en Belgique, dans certains pays, il y a trop de fonctionnaires en Belgique. Il faut en supprimer, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche. Bon, mais soit. Je ne suis pas Yvan, mais parfois, il rentre dans mon corps et je raconte n'importe quoi. Bon, mais dans certains pays, en particulier des pays d'Afrique, une ligne continue sur la route, donc le marquage sur la route, c'est la même chose qu'un policier. Vous comprenez? Donc, vous êtes sur l'autoroute, vous avez une ligne continue, la ligne continue, elle est égale à un policier. Donc, si vous traversez la ligne continue, on vous arrête en vous disant, monsieur, vous avez écrasé un policier. Vous dites, mais non, je suis pour rien. Donc, vous comprenez? Bien évidemment, c'est pour protéger la vie des gens et c'est pour donner de la valeur au marquage au sol. Parce qu'il n'y a personne qui respecte le marquage au sol et après on a des accidents, tout le monde coupe partout et puis voilà. Mais donc dans ces pays-là, on a donné une valeur profonde au marquage au sol. Puisqu'on ne peut pas avoir un policier partout, on va vous dire, ben voilà, faites attention au marquage parce que même s'il n'est pas là, si on vous attrape, vous serez considéré comme l'ayant attaqué. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des endroits qui sont égales à Dieu. Et donc, la relation que j'ai avec cette chose-là, c'est exactement comme si je m'adressais ou j'avais une relation directe avec Dieu. Alors, il y a trois grandes catégories de choses qui entrent dans ce cadre-là. Alors, vous comprendrez que ce ne sont pas des personnes, ce sont plus des concepts, mais c'est important. La première chose... Et là, vous comprendrez que c'est difficile même à saisir, qui est tout à fait lié à Dieu, c'est l'honneur de son nom. L'honneur de son nom. La deuxième chose qui est directement liée à Dieu, ce sont les faibles. Les faibles. Et la troisième chose qui est directement lié à Dieu, c'est l'ordre dans les familles et l'ordre dans l'Église. On s'est compris? Bon, je vais aller plus loin après parce que vous êtes tous là en train de... Oh là 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 là. Heureusement que je suis là parce que sinon il n'y aurait pas d'ambiance ici. Bon. La toute première chose... En fait, ce sont des choses qui sont, comme on le dit parfois la Bible, la prunelle de l'œil de Dieu. C'est la priorité. Ce sont des choses qui sont absolument essentielles, importantes aux yeux de Dieu. Premièrement, l'honneur de son nom. Dieu tient à l'honneur de son nom. Il dit en Ésaïe chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » ni mon honneur aux idoles. Raison pour laquelle Dieu condamne avec tant de virulence l'idolâtrie, c'est parce que l'idolâtrie, ça consiste justement à faire croire que les œuvres de Dieu, on peut les attribuer à quelqu'un d'autre. La première chose à laquelle Dieu tient, c'est à l'honneur de son nom. Ça peut paraître très orgueilleux, on dit souvent, oui, Dieu est orgueilleux, il est vengeur, mais c'est important que nous le sachions. Dieu tient à sa gloire. Il ne la donnera pas à quelqu'un d'autre. Il ne la donnera pas à un humain. Il ne la donnera pas à un groupe d'humains. Dieu tient à sa gloire. Raison pour laquelle nous devons faire attention lorsque nous attribuons des choses dans notre vie. Lorsque Dieu agit dans ma vie, je dois être capable de lui dire merci à lui. Je dois être capable de lui accorder un hommage à lui, parce que c'est sa grâce qui est venue. Raison pour laquelle nous devons faire attention avec les humains à qui nous attribuons parfois des mérites qu'ils n'ont pas. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Les choses que Dieu fait, nous devons les attribuer à Dieu, nous devons les lui rendre. C'est pour ça que chaque fois que les gens dans l'Ancien Testament vivaient la grâce de Dieu, ils se prosternaient et ils lui rendaient hommage. Ils lui rendaient la gloire qui lui est due, la chose qui est reçue, que je reçois, elle est, je la reconnais comme venant directement de Dieu. Raison pour laquelle aussi, quand dans l'Église il se passe des choses fantastiques, des miracles ou des œuvres formidables, nous devons être rapides à dire, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Beaucoup sont tombés dans des problèmes parce que, ayant le don de guérison, ils ont commencé à s'imaginer qu'ils avaient du style, qu'ils étaient mieux que les autres. non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Si un jour, l'église de Jumet a un énorme bâtiment dans lequel on fait rentrer des milliards de personnes, non pas des milliards, ça va être beaucoup, parce que si Rose a envoyé des mails à tout le monde, on ne va jamais s'en sortir. Non, des centaines de personnes. Un beau bâtiment énorme où tout le monde glorifie Dieu. Benoît, il ne serait pas content. Le premier qui partirait, ce serait Benoît. Il dirait non, c'est des églises de multitudes, ça. C'est pas grave. Nul n'est irremplaçable, Benoît. C'est une blague, hein. Je rigole. Bon, mais si jamais dans cette salle, c'était moi qui avais mis toutes les briques, je devrais faire attention, après avoir tout construit, de dire Seigneur, à ton nom seul donne gloire. Même si c'est moi qui ai tout fait, même si je me suis donné à 1000%, même si je me suis tué à la tâche, Seigneur, à ton nom seul donne gloire. Nous devons être vigilants à toujours lui rendre la gloire pour les choses qui arrivent. Si un frère m'impose les mains et que la guérison vient dans ma vie, je vais être capable de dire merci mon frère, mais surtout, Seigneur, à ton nom donne gloire. Ne soyons pas rapides à donner la gloire aux hommes. Ne soyons pas rapides à encenser les hommes pour ce en quoi ils n'ont absolument rien à voir. Mais soyons rapides à donner la gloire à Dieu. Là, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire merci. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître la valeur des autres. Mais nous devons faire attention à rendre la gloire à Dieu. Une chose aussi qui, dans l'honneur de son nom, qui est directement liée à Dieu, directement, c'est-à-dire que cette chose-là égale Dieu, c'est le jour du repos. Vous êtes tous d'accord que les 10 commandements sont d'application. L'adultère, on peut ou on ne peut pas ? Le meurtre, on peut ou on ne peut pas ? L'idolâtrie ? Les faux témoignages ? Ah voilà. Si c'est valable, c'est valable. Bon. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En d'autres termes, le jour du repos, c'est-à-dire le jour consacré à Dieu, pour le dire d'une manière plus calme, qui vous agrée mieux, c'est un jour qui automatiquement, sans qu'on ne fasse rien, a été mis à part pour Dieu. Et c'est un jour dans lequel nous aussi, nous avons la responsabilité de consacrer ce jour à Dieu et de dire, Seigneur, en ce jour-là, tout pour toi. En ce jour-là, tout pour ta gloire. Ce jour du repos, on en parlait la semaine passée, il est pour notre bien. Ce n'est pas un jour pour nous faire du mal, pour nous embêter ou quoi que ce soit. C'est un jour pour notre bien. Mais c'est un jour qui est mis à part pour Dieu. Quand on dit sanctifier, ça veut dire mettre à part, consacrer, mettre à part. Quelque chose qui est différent du reste, qui est complètement autre. L'honneur de son nom, le jour du repos est sanctifié, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est à nous de donner au jour du repos sa valeur. Et dans Ésaïe, Dieu va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit le jour du repos. Il dit, si en ce jour-là, tu ne fais pas les choses dans lesquelles toi tu as plaisir, mais que tu cherches à me faire plaisir, à moi l'Éternel, si en ce jour-là, tu te reposes de tes œuvres. C'est important. C'est important pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi important pour notre santé. Nous avons besoin de nous reposer. Nous avons besoin de mettre un terme parfois à ce que nous avons fait. Vous savez qu'auparavant, les hommes ont essayé de faire une semaine à 10 jours. Les Français, oui. Ça peut être que, bon. Ils ont essayé de faire une semaine à 10 jours. Ça n'a pas marché forcément, puisque aujourd'hui c'est toujours 7 jours. Parce que quelque part, il faut savoir que la semaine à 7 jours, ce n'est pas quelque chose de tout à fait... C'est pas une convention humaine. C'est pas parce qu'on a envie que ce soit 7 jours que 7 jours ça marche. C'est parce que 7 jours, c'est la semaine que Dieu a décidé. C'est pas pour rien que le dimanche, il n'y a plus personne dans les rues. C'est parce qu'il y a automatiquement, sans qu'on le veuille, un jour de la semaine qui est complètement différent, où les gens décident de s'arrêter, de se calmer, de contempler la gloire de Dieu. Le jour du repos. Une troisième chose qui est directement, automatiquement liée à la gloire de Dieu, ce sont les parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est vrai que nous devons en parler parce que c'est une génération dans laquelle finalement on se dit bon ben voilà les parents voilà. Mais c'est important. Tout comme le jour de repos, nos parents sont égaux à Dieu, dans le sens où la relation que j'ai avec mes parents, c'est comme la relation que j'ai avec Dieu. C'est la même chose. Le respect que je peux donner aux parents, ou que nous pouvons donner à nos parents, c'est la même chose que le respect que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et donc, ce que le texte dit en Lévitique 19, c'est que « fais ces choses ainsi, tu sanctifieras le nom de l'Éternel ton Dieu. » En d'autres termes, lorsque dans ma vie, je me comporte avec sainteté vis-à-vis d'une chose que Dieu a déclarée saint, alors je sanctifie son nom. Dieu a déclaré saint le jour du repos. Quand j'ai une relation de sainteté vis-à-vis de ce jour-là, je sanctifie son nom. Dieu a sanctifié les parents. Lorsque j'ai une relation de sainteté vis-à-vis des parents, je sanctifie son nom. Ensuite, quatrième chose, enfin je ne sais pas, je ne compte plus, qui est directement liée à la gloire de Dieu, c'est une chose qui est comme Dieu, ça a un lien direct avec sa gloire. Notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est directement lié à Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec nos corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nos corps appartiennent à Dieu. Nous devons avoir une relation avec nos corps qui soit des relations aussi de sainteté. Nos corps, ce ne sont pas... C'est pour ça que vous savez bien que moi, les enterrements à la va-vite... Non, je ne suis pas d'accord. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle l'âme a été présente pendant toute une vie. Nous devons enterrer les morts avec dignité. Parce que le corps a été le temple du Saint-Esprit. Dès l'instant où la personne décède, il n'y a plus rien. Mais ça reste l'enveloppe et nous devons accompagner l'enveloppe dans le respect et dans la dignité. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Ça nous encourage bien évidemment à faire attention à notre santé, à faire attention à la gestion de nos horaires, de notre repos, de nos activités, de ce que nous écrivons sur nos corps, de ce que nous coupons dans nos corps, de ce que... Un respect pour notre corps, ça glorifie Dieu. Lorsque j'ai un respect vis-à-vis de mon corps, je sanctifie le nom de Dieu. Cinquièmement, sixièmement, je ne sais pas, je ne compte pas. Donc, ne me demandez pas où on en est. Une autre chose qui est égale à Dieu, qui la relation que nous avons avec cette chose-là est directement liée à Dieu, ce sont ses envoyés, les envoyés de Dieu. Il est écrit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je lui dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » C'est pour ça qu'on encourage toujours les gens à l'hospitalité. Parce que quand Dieu nous envoie quelqu'un, ou quand quelqu'un vient au nom de Dieu, cette personne, nous devons la respecter parce qu'elle elle est mise à part pour Dieu. Et à plusieurs reprises, et c'est quand même terrible ce que ça existe, celui qui donnera un verre d'eau froide à un de mes disciples, il ne perdra pas sa récompense. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, mon disciple, c'est moi. Et rappelez-vous, et non, je ne vais pas le rappeler maintenant, parce que sinon vous ne saurez plus, quoi. Bon, il est déjà moins 10. C'est pas grave, c'est carnaval demain, non? Ah ben voilà. C'est pas férié. C'est pas grave, hein, on peut profiter, c'est le jour du Seigneur quelque part, non? Voilà, on pourrait rester là toute la journée, hein, c'est pas grave. Bon, donc je vais tout faire, c'est pas grave. Bon, ceux qui veulent s'en aller, allez-y, mais discrètement. Respecter les serviteurs de Dieu, c'est important, c'est important. Et en particulier les missionnaires, ceux qui viennent en son nom, ceux qui nous visitent, ceux qui nous rencontrent, c'est important aussi. Deuxièmement, des choses ou des personnes qui sont directement liées à la gloire de Dieu, c'est important que nous puissions le comprendre, ce sont les faibles. Les faibles. Car ainsi parle le Très-Haut, Ésaïe 57, verset 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est en particulier présent, d'une manière tout à fait spéciale, aux côtés des faibles. Il accorde un soin particulier aux faibles. Il donne une valeur particulière aux faibles. Les faibles, pour nous chrétiens, ne devraient pas être des gens comme ça. Nous devrions avoir un respect particulier envers les faibles. Alors les faibles, 12 catégories de personnes, je les cite, et j'ai 3 versets pour chacun. Bon, non, c'est une blague. Non, c'est parce que Rose, elle n'aime pas quand je déborde. Hein. Après, elle se fâche et... Oh. D'ailleurs, Jean-Paul, je vais te dire un truc qu'elle a dit la semaine passée. C'est là que ça me revient. Première catégorie de faibles, les veuves. Timothée honore les veuves qui sont véritablement veuves, dit l'apôtre Paul. Deuxième catégorie de personnes, les orphelins. Le père de l'orphelin, c'est Dieu. On fait toujours comme si oui, mais non. Directement, automatiquement, Dieu accueille tous les orphelins comme étant ses enfants d'une manière tout à fait particulière. Et donc nous devons prendre soin des orphelins. Troisièmement, les pauvres. Nous devons prendre soin des pauvres, nous devons respecter les pauvres, nous devons collaborer avec les pauvres. Raison pour laquelle un chrétien doit être d'accord, content de payer ses impôts. Parce que les impôts, ils servent aussi aux pauvres. Alors on sait bien qu'il y a des pauvres qui font rien, tant pis. On sait bien qu'il y a aussi de l'argent qui doit être pour les routes et qui ne font rien pour les routes, tant pis. Mais nous devons être reconnaissants à Dieu de vivre dans un pays dans lequel on peut prendre soin des pauvres. CPAS, c'est une grâce de Dieu. Hein? Parce que ben, des gens qui parfois pourraient être tout le temps sur le trottoir, eh ben, ils ont quand même l'occasion d'avoir une maison et de quoi se chauffer et de quoi... Bon. Troisièmement, les pauvres. Quatrièmement, les étrangers. Il leur dit, vous l'avez lu dans le texte de Lévitique 19, « Ayez du respect pour l'étranger, car vous avez aussi été étrangers, les immigrés. » Nous devons respecter les immigrés, nous devons accueillir les immigrés. Alors, dans quelle mesure, ça c'est pas notre débat, on n'est pas au Parlement ici. Nous, tout ce que nous savons, c'est que la Bible nous encourage à respecter, à prendre soin des étrangers, des immigrés, des gens qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans des situations particulières de difficulté. Les immigrés. Cinquièmement, les prisonniers. Raison pour laquelle nous, les chrétiens organisent des systèmes d'aumônerie pour aller rendre visite aux aumôniers. Ça veut dire quoi? Mais ça dit la compassion de Dieu envers ceux qui, même, se sont mal comportés. On n'est pas prisonnier parce qu'on ne s'est pas brossé les dents. Hein? On est prisonnier parce qu'on a fait des choses graves parfois, parce qu'on a fait souffrir la société, parce qu'on a fait souffrir des victimes. Et pourtant, Dieu nous demande d'avoir de la compassion envers les prisonniers et de leur manifester notre amour. Cinquièmement, les prisonniers. Sixièmement, les opprimés, les persécutés. Et c'est pour ça que dans les églises, on partage tous des feuillets qui nous parlent des gens qui souffrent, des gens qui sont persécutés, opprimés pour leur foi, et pour lesquels nous devons prier, pour lesquels nous devons avoir un intérêt, pour lesquels nous pouvons envoyer des dons. Parce que ce sont des gens sur lesquels la faveur de Dieu est particulièrement versée. Septièmement, les malades. Ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui sont malades dans leur âme. L'Éternel dit « Je suis auprès de celui qui souffre dans sa maladie ». Et donc, puisqu'il est auprès du malade, nous devons aussi être avec les malades. Nous devons rendre visite aux malades. Nous devons être avec les malades. Nous devons encourager, aimer les malades. Huitièmement, les endeuillés. Ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu un proche. Ceux qui souffrent parce que Dieu a permis qu'un quelqu'un qu'ils aimaient, qui était présent autour d'eux, s'en aille. Neuvièmement, les sourds et les aveugles. Vous avez lu le texte. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. C'est très, très important. Alors vous savez qu'un aveugle dans la Bible, je l'avais déjà expliqué ici, hein, un aveugle c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui ne voit pas physiquement. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est aussi un aveugle. Et donc par exemple, quelqu'un qui arrive dans l'église, qui débarque, qui ne sait pas trop quoi, nous devons faire attention à bien orienter les gens. Les nouveaux convertis, les personnes qui ne connaissent pas encore la parole, nous devons faire attention à bien les accompagner et à ne pas les envoyer sur le mauvais chemin. Quelqu'un qui ignore une vérité, nous devons faire attention de ne pas encourager les gens dans des voies incorrectes. Je me rappellerai toujours de cette fois où j'attendais le métro et puis il y a une dame qui me dit « Monsieur, pour aller à la gare de Charleroi-Sud, c'est de quel côté ?» Je dis « Ah, mais c'est le métro qui arrive !» Et puis elle monte dans le métro et elle a eu la lucidité de demander confirmation quand même. Et puis elle dit « Monsieur, c'est bien Charleroi-Sud ici ?»« Ah non, madame, on va dans l'autre sens !» Et puis elle est sortie, elle me dit « Monsieur, faut faire attention !»
Donc nous devons faire attention. Oui, il est midi, mais c'est pas grave. Bon, les sourds et les aveugles. Ça veut dire que nous devons être reconnaissants que maintenant, dans les lieux publics, il y a des endroits pour aider les sourds, les aveugles, à se repérer. Il y a des systèmes de braille, tout un ensemble de choses pour aider les aveugles à se repérer. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber, tu honoreras ton Dieu. Dixième catégorie de personnes, les personnes âgées. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Bon, alors ici, des vieillards, ça ne manque pas. Donc, il faut réussir à savoir qui est vieillard, qui ne l'est pas, qui est Je vais faire des catégories bientôt parce que... Ainsi donc, voici ce que dit notre Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui Il séparera les indes avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Car toutes ces choses que vous avez faites, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi. Donc Dieu ne fait pas de différence entre le faible et lui. Ce que nous faisons au faible, nous le faisons directement à Dieu. Donc je ne vais pas aborder le troisième point aujourd'hui. On le verra en détail une autre fois. Mais quoi qu'il en soit, retenons que nous avons la responsabilité aussi de la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas seulement saint dans son ciel pour lui tout seul, nous aussi, nous avons notre part pour faire de son nom un nom respecté, honoré, valorisé, élevé. Nous allons ensemble chanter un chant avant de nous séparer et je prie que chacun puisse chanter ce chant en remettant cet enseignement entre les mains du Seigneur. Et c'est dans les recueils, le 259.